On va continuer à parler recrutement humain, engagement aussi avec Fanny Potier, partenaire au BCG qui me rejoint pour répondre à vos questions en direct. Vous avez des questions, vous nous écrivez LinkedIn, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter et puis bien sûr l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On va parler de ce chiffre, 7 Français sur 10 qui refusent un job parce que le processus de recrutement ne leur a pas plu. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution des process de recrutement dans notre pays? Qu'est-ce que ça dit du rapport au travail? On va parler aussi rééquilibrage de l'équation mission-engagement-salaire, cette équation à 3 variables. Et pour tout ça, eh bien, je salue à nouveau Fanny Potier qui m'a rejoint. Bonjour Fanny, rebonjour.
Bonjour Laurent.
Alors, on a commenté tout à l'heure, hein, vous pouvez retrouver cette chronique sur nos différentes plateformes, ce chiffre de 7 talents français sur 10 qui refusent un boulot parce que le recrutement ne s'est pas passé à leur guise, on va dire. C'est quoi la définition d'un recrutement qui se passe très mal, Fanny, du point de vue du BCG?
Alors, un recrutement qui se passe très mal... La note to-do list, c'est exactement... alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut du rythme, donc pas rythmé, c'est-à-dire que vous avez un contact, on vous laisse tomber, puis après, le pire, c'est vous qui devez relancer la machine. Aucune interaction physique. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai échangé avec une collègue qui me disait qu'elle était en processus de recrutement, et elle me dit, j'ai fait que de l'hybride, que du virtuel, j'ai jamais vu les personnes de l'entreprise. Donc ça, c'est la note tout doux. Il faut du présentiel. Il faut de la personnalisation. Donc la personnalisation, c'est de l'engagement en présentiel, mais c'est aussi vous donner du feedback. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus on vous dit, ah oui, la personne que tu as rencontrée, elle a pensé ça, et toi, tu en as pensé quoi, etc. Voilà. Et puis, alors... Notre tout doux, c'est le biais. Les biais dans le recrutement. Donc, tout ce qui peut amener à penser à un candidat qu'il y a des biais dans la sélection de son CV, il y a des biais dans la façon dont on le rencontre, etc., à éviter impérativement.
On va démarrer par un témoignage d'une de nos auditrices, Valérie, qui m'a écrit à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Je vous le lis, Fanny, c'est un peu long, mais je pense que ça va nous servir de point de démarrage. Beaucoup d'employés demandent à travailler à mi-temps car ils ont le droit à un complément de salaire plus avantageux que de travailler à temps plein. Une de mes employées m'a expliqué qu'elle préférait ne pas venir pour toucher le complément de salaire du chômage. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire face à cela. Comment on rattache ce témoignage de Valérie, employeur, et ce rapport au mi-temps et ce rapport plus globalement à notre envie de travailler?
Alors, cette enquête comporte pas mal d'éléments sur le rapport, plutôt sur l'organisation du travail. Je vais ouvrir un tout petit peu plus que ça, parce que on voit qu'il y a énormément de discussions aujourd'hui sur la flexibilité, ce qu'on appelle la flexibilité, et qui prend plein de formes différentes. Donc, c'est l'hybride. Donc, dans l'enquête, 76% des Français nous disent...
C'est l'enquête dont on parle. Vous avez publié avec Cadre Emploi une enquête vaste, mondiale. 90 000 personnes sondées, je crois.
160 pays et 1900 en France. Donc cette enquête porte sur le processus de recrutement et l'expérience des candidats en fait dans le processus de recrutement. Mais évidemment, on leur demande aussi ce qu'ils attendent d'un job. Et donc 76% des Français qui répondent à l'enquête nous disent que ils veulent de l'hybride. Voilà. Ensuite, on a des questions autour de le temps de travail, c'est quoi pour vous finalement? Donc là, moi, c'est un des éléments de surprise en lisant l'enquête, c'est 80% des Français répondants nous disent qu'ils veulent une semaine de 5 jours. Donc, pour reprendre le témoignage que vous partagiez, je pense qu'en fait, ce que ça nous dit, c'est que on a tous des attentes très différentes. En fait. Et ça pose une question de promesse employeur pour les entreprises et de s'adapter et d'essayer de s'adapter quand même à des préférences individuelles dont on voit qu'elles sont assez diverses et qui finalement n'est que le reflet de la diversité des profils en entreprise. Hein.
Le recrutement, le processus de recrutement en dit long sur les entreprises. C'est un petit peu, vous avez fait un lapsus en disant l'expérience utilisateur, l'expérience candidat, c'est tout ça se chevauche maintenant. On parle beaucoup de candidats fantômes, de ghosting. D'ailleurs, ce sera le sujet de notre émission mercredi prochain. Mais il y a aussi les recruteurs qui ne répondent pas. Vous nous disiez les choses qu'il ne faut pas faire et les choses qu'il faut faire. Quels sont les facteurs les plus importants qui ressortent dans votre étude de ce que les Français, quels sont les facteurs les plus importants pour les Français, facteurs qu'ils essayent de valider pendant justement ces entretiens d'embauche?
Oui. Alors les Français, d'abord, quand ils regardent une offre d'emploi, ils sont très intéressés en fait par deux choses. La localisation du poste et le fait que ce soit un poste à impact. Par ailleurs, on sait aujourd'hui de nouveau, avec beaucoup d'enquêtes, y compris celle-là, que plus d'une personne sur deux en fait refuserait de travailler pour une entreprise qui n'a pas un agenda RSE ou qui n'a pas d'agenda en matière de diversité et d'inclusion.
Hein. On est quand même sur des Français plutôt profil cadre.
On est sur des Français plutôt profil cadre. Effectivement, c'est pour ça qu'on parle d'enquête talent en l'occurrence. Voilà. Donc ça, c'est déjà très important. Après, une fois qu'on a regardé les offres et qu'on s'est dit, je vais aller plus loin sur celle-ci, d'accord. Donc celle-là m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qui va être important et privilégié par un Français? Ça va être l'équilibre, un job stable avec un équilibre de vie professionnelle et personnelle. Au moment où, on a déjà parlé du processus de recrutement et de ce qui était important pendant le processus, au moment où vous recevez votre offre, de nouveau, c'est un moment assez essentiel, en fait, dans le processus de recrutement. Qu'est-ce qui va compter pour le Français ou la Française? Ça va être, curieusement, et là, c'est un peu différent peut-être de par le passé, c'est l'adéquation entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est le premier facteur. Ensuite, le deuxième facteur, on revient. Donc, ça veut dire que si on pense qu'on n'a pas d'adéquation entre ses valeurs personnelles et les valeurs professionnelles ou celles qu'on perçoit de l'entreprise, on pourrait être amené fortement à décliner l'offre. Après, on revient à des considérations d'équilibre de vie professionnelle et personnelle. Le salaire ne vient qu'en quatrième position.
Je vais vous partager une réaction de Richard qui m'a écrit sur LinkedIn. Il dit qu'on aborde un sujet très intéressant, merci beaucoup, mais très important. Mais ce qui est important aussi, c'est l'intégration d'un collaborateur parce que beaucoup d'entreprises prennent trop à légère les intégrations, donc ce qui suit le processus de recrutement, et donnent une mauvaise image aux jeunes collaborateurs. Est-ce que du coup, une fois qu'on a dit oui à une offre, pour plein de raisons, peut-être notamment les plus jeunes, parce que voilà, il faut à tout prix avoir un boulot, etc. Vous observez, est-ce que dans cette étude, vous avez observé des taux de démission très élevés qui suivent ces mêmes facteurs que vous venez de nous lister? Est-ce qu'il y a un deuxième round, quelque part, des facteurs qu'on avait validés pendant le processus de recrutement? Et en fait, dans les 2-3 premiers mois du job, on leur donne une deuxième chance, on essaye de les revalider à nouveau?
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, la promesse employeur, c'est pas une promesse, c'est pas une affiche marketing qu'on met sur les murs de son entreprise pour faire venir les candidats. La promesse employeur, une fois qu'on s'est dit tout ce qu'on vient de se dire sur le recrutement, c'est très très important en fait qu'elle soit concrétisée et matérialisée dans les premiers mois et les premières années du job et de quand on travaille ensemble en fait, finalement, le candidat ou le collaborateur et l'entreprise. Donc s'assurer en fait que vous continuez à matérialiser et à donner des preuves en fait de ce que vous avez promis au candidat au moment où vous étiez en train de vous regarder et de vous dire est-ce qu'on va se plaire, est-ce qu'on a envie de se marier finalement, c'est absolument essentiel. L'enquête ne mesure pas précisément de taux de satisfaction, si vous voulez, ou de taux d'insatisfaction par rapport à ça, mais par ailleurs, avec tout le travail qu'on fait avec les entreprises, on sait que c'est fondamental.
Vous nous disiez ce chiffre ou cet enseignement de l'étude. Les Français, ils sont à la recherche d'un emploi stable et d'un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Vous disiez que la localisation, c'était important. L'impact du poste, ou plutôt un poste à impact, c'est important. Comment on imagine sa carrière à long terme? C'est quand même stabilité et puis équilibre. Est-ce que la crise sanitaire a accentué ce besoin de stabilité et d'équilibre de vie privée, vie professionnelle, ou est-ce que c'était déjà des choses sous-jacentes que vous sentiez au BCG?
On voyait cette inflexion se profiler, donc ça confirme. Ce qui est, je trouve, assez intéressant dans l'étude, c'est que dans les projections de carrière, en fait, donc je suis allée sur le champ du job stable et de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. En fait, le deuxième facteur, c'est le poste à impact, on l'a déjà dit. Le troisième facteur, c'est je ne pense pas tellement plus loin que ça. en fait. Contrairement à avant le Covid, où finalement les possibilités de se développer au sein d'une entreprise étaient quand même toujours un facteur assez élevé dans les attentes, là, on a un peu l'impression qu'on, voilà, que on va pas tellement plus loin que le job d'après.
Ouais, une vision un petit peu plus myope, mais qui n'est pas forcément un signe négatif. Finalement, si on peut se permettre d'être un peu plus myope, c'est qu'on est un petit peu plus serein aussi.
Certes, et puis je pense que c'est lié, là, faut revenir au contexte général dans lequel on est, où il y a quand même tellement d'incertitudes et de volatilité. Un job sur deux du futur n'existe pas. Ouais. Moi, je vais vous parler d'une expérience très personnelle. Mon fils est en terminale, on est en plein dans les dossiers Parcoursup. Donc, je le rassure en lui disant ça, en lui disant un job sur deux n'existe pas. Donc, faisons déjà la prochaine étape. Voilà, les fondamentaux qui vont te permettre après de rebondir. Mais on est dans des périodes où, que ce soit du côté des entreprises ou du côté des candidats, le rebond, l'agilité, l'adaptabilité et puis prendre des trajectoires très différentes, c'est ça qui va se passer. C'est notre futur à tous. Hein.
Un job sur deux n'existe pas. Voilà. Soyons sereins dans notre capacité à trouver le bon job au bon moment, y compris quand on est en train de remplir ses dossiers de Parcoursup. Ça s'applique pour les parents qui nous écoutent, mais peut-être aussi pour les jeunes gens. Je vais rebondir. Il nous reste 4 minutes sur deux choses. La première, vous disiez les Français et les Françaises. Est-ce que justement, il y a une différence entre les deux genres dans l'étude que vous avez menée sur cette perception, sur le rapport au travail, comment on imagine sa carrière à long terme, ou est-ce que ça se superpose chez les cadres?
Non, c'est relativement homogène. C'est plus dans les questions d'organisation du travail, donc dans justement les modalités temps partiel, pour revenir au témoignage que vous évoquez, où il peut y avoir quelques variations selon qu'on est homme ou femme. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même que les jeunes hommes ont à peu près les mêmes aspirations que les jeunes femmes.
Un mot, une formulation qui m'a interpellée en étudiant cette étude, c'est agir à hauteur de son salaire. Agir à hauteur de son salaire. Thomas nous a écrit à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr en utilisant cette expression. Mais lui, il n'est pas cadre. Il m'écrit « Je suis payé 1 800 € brut seulement pour un poste de responsable de communication. C'est très peu étant donné mon niveau d'études. Du coup, je travaille à hauteur de mon salaire. » C'est-à-dire très peu. Travailler à hauteur de son salaire, est-ce que c'est une nouvelle expression qui arrive aujourd'hui? Est-ce que vous l'entendiez avant? Est-ce qu'elle concerne les cadres? Est-ce qu'elle concerne plus les cadres?
Je pense que c'est pas nouveau, c'est peut-être une formulation qui est exprimée différemment. Alors nous, on s'exprime pas sur les rémunérations et l'étude n'était pas sur ce terrain-là. En revanche, c'est vrai que on voit beaucoup plus de souplesse ou de flexibilité à aménager, si vous voulez, des dispositions de temps de travail et à accepter. Des deux côtés, hein, mais aussi du côté des collaborateurs, à accepter de perdre un peu de pouvoir d'achat finalement, parce que en fait, on va travailler moins et qu'on va pouvoir de nouveau aller vers de l'équilibre vie pro, vie perso, et ça prend énormément de forme. Alors là, la question est plus sur la valeur, intrinsèque qu'on donne à un collaborateur via un salaire. Mais ça, c'est pas l'objet de l'étude.
Il y a 1000 autres questions autour de cette étude, autour de notre rapport au travail. La conclusion, c'est que les talents ne vivent plus pour leur travail, mais travaillent pour vivre. C'est ça qu'il faut retenir. 70% des gens qui recherchent avant tout un emploi stable et un bon équilibre de vie, français, mais aussi internationaux, puisque votre étude, elle est internationale. Je vous renvoie, hein, What Job Seekers Wish Employers Knew. C'est l'étude cadre emploi BCG que vous pouvez retrouver sur le site. C'est un sujet qu'on continuera à filer sur notre antenne. Continuez à nous écrire. Merci beaucoup, Fanny Potier, d'avoir été avec nous. Lundi, on parlera droit du travail, vos questions, nos réponses. D'ici là, vous pouvez continuer à nous écrire avec vous à bfmbusiness.fr. On est en direct tous les midis à 13h sur les réseaux sociaux.